Si beaucoup de jeunes entreprennent des études, certains d'entre eux se sentent rapidement en situation de faiblesse ou en décrochage après quelques mois d'intégration. Manque de connaissances dans la discipline choisie ou mauvaise préparation à travailler en toute autonomie et hors du contexte familial, les raisons ne manquent pas. Et c'est pour aider les nouveaux étudiants à rester dans la course que le Conseil régional a mobilisé pour cette année universitaire des moyens conséquents au travers de trois dispositifs présentés à la presse par Sandrine Rousseau, vice-présidente du Conseil régional chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et tout d'abord le premier dispositif appelé contrat étudiant qui tente de trouver des solutions aux difficultés économiques de certains d'entre eux.
Alors ça, l'idée, c'est une idée très simple, c'est que y a une précarité étudiante et une précarité réelle. Il y a des étudiants qui n'arrivent même pas complètement à manger à leur faim, qui vivent dans les universités, se rendent très bien compte de ça, et qui évidemment suivent des études dans ces conditions-là, c'est compliqué. Deuxième chose, c'est que les étudiants de la région ont plus qu'ailleurs des boulots, des petits boulots à côté de leurs études. Mais c'est des petits boulots qui parfois contraignent tellement leurs études que ça rend difficile de réussir leur diplôme dans ces conditions-là. Quand vous devez faire 50 bornes pour aller être femme de chambre ou serveur ou machin dans un restaurant, c'est pas complètement simple de suivre des études, surtout quand votre employeur n'en a pas grand-chose à faire de vos horaires de cours. Donc l'idée, c'est de donner comme ça une espèce de bouffée d'oxygène aux étudiants avec des emplois de 5 à 10 heures par semaine sur les campus avec cette espèce de double effet qui se coule, enfin de double effet positif. Le premier, c'est que ça facilite les conditions de vie des étudiants et donc ça améliore leur taux de réussite. J'y reviendrai après, mais a priori, les taux de réussite de cette population-là est plus important en moyenne que l'équivalent sans les contrats étudiants. Et deuxième chose, ce sont des étudiants qui animent les campus, qui soutiennent la vie associative, qui soutiennent la vie culturelle, bref, qui font que les campus sont moins ces espèces de machines anonymes qui sont souvent comprises comme des machines à broyer. Et une part non négligeable de ces contrats étudiants est destinée au tutorat, c'est-à-dire aux jeunes qui décrochent ou qui sont un tout petit peu en dessous de la moyenne à la fin du premier semestre. Voilà, donc ça, ce sont les contrats étudiants. 630 contrats étudiants l'année dernière. 46 500 heures, cela représente. Et donc, c'est un budget de 700 000 euros que nous avons réussi à maintenir pour cette année. Et j'espère que nous l'amplifierons en 2015. Contrats étudiants, on est la seule région de France à le faire. Hein, je le dis parce que, voilà. Le programme PREL. PREL, donc le PREL, c'est unique en France aussi. C'est un dispositif qui a trois volets. Un volet auprès des grandes écoles qui vont dans les lycées. Développer l'envie chez les lycéens de poursuivre des études supérieures, qui font même jusqu'à le soutien le samedi matin à des cours supplémentaires, à des cours de langue, à la découverte de la vie culturelle, etc., pour développer aussi la confiance en soi, le niveau dans certaines disciplines qui parfois posent problème. Deuxième volet de ce dispositif PREL, c'est la lutte contre le décrochage à l'université, c'est-à-dire ce sont les étudiants qui sont borderline, j'allais dire, c'est-à-dire dont on sent qu'ils n'auront pas leurs études, mais qu'il y a un potentiel chez eux. Ces étudiants-là sont suivis par des tuteurs qui sont des étudiants de la même discipline, mais en avance sur eux, qui sont en master ou en licence 3, c'est ça, essentiellement, et qui aident ces étudiants en décrochage en faiblesse pour qu'ils réussissent leurs études. Le troisième volet, c'est un diplôme universitaire. Là, c'est clairement pour les étudiants en décrochage. C'est-à-dire qu'ils peuvent, quand on voit qu'ils ne suivent pas du tout, ils peuvent intégrer ce diplôme universitaire. Et c'est une année en quelque sorte de transition entre le lycée et l'université. C'est une année qui n'est pas perdue puisque c'est sanctionné par un diplôme. Alors c'est un diplôme qui est un peu redondant par rapport aux autres diplômes, mais enfin sur le CV, c'est pas une année blanche. Et c'est un dispositif qui leur permet vraiment d'acquérir les bases pour réussir la fois d'après. Et donc tout cela nous coûte la bagatelle de 2,8 millions d'euros, mais que, je le redis, nous sommes très fiers de dépenser pour des causes comme celle-ci. Troisième dispositif, les bourses Blériot, ça c'est la mobilité internationale, et là nous ne sommes pas les seuls en France puisque beaucoup de régions le font. Cette année, les bourses à l'international ont été augmentées à 400 euros par mois. On touche 1700 bénéficiaires. D'ailleurs, cette année, on les a ouverts aussi aux apprentis. C'est-à-dire que même quand vous êtes apprenti, vous pouvez aller faire des stages à l'étranger. Et ça, on constate que dans l'émancipation des jeunes, dans leur capacité à intégrer un boulot à la sortie des études, c'est absolument primordial. D'avoir fait un séjour à l'étranger, c'est vraiment déterminant pour limiter les périodes de chômage et avoir une insertion professionnelle rapide et efficace. Et ça, voilà, c'est, je vous dis, c'est 1700 étudiants bénéficiaires encore cette année. Et c'est un dispositif aussi que l'on prolongera les années suivantes. Voilà.
Comment ces dispositifs d'accompagnement des étudiants en faiblesse ou en décrochage présentés par Sandrine Rousseau, vice-présidente du Conseil régional, sont-ils mis en œuvre ? Voici quelques cas concrets d'étudiants qui ont bénéficié de leur mise en place dans leurs universités.
Bonjour, je m'appelle Janiba, j'ai 22 ans. Je suis actuellement étudiante en première année de master en économie et management public à Lille 1. Quand je suis arrivée en première année de licence à l'université Lille 3, on m'a proposé le dispositif PREL, car je venais d'un bac technologie. Et comme je voulais faire une licence économie, management des organisations, j'avais quelques lacunes qu'il fallait que je rattrape pour pouvoir valider ma licence. Et grâce à ce dispositif, j'ai pu rattraper ce retard grâce aux tutorats qui ont été mis en place, encadrés par des étudiants et même des doctorats qui nous ont aidés tout au long de mon cursus. Et ça a vraiment été bénéfique parce qu'ils sont toujours là derrière nous à nous remotiver, à nous motiver à faire des études longues, à nous expliquer les choses vraiment. Et je crois que c'est vraiment important, surtout pour des nouveaux étudiants qui arrivent en première année. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir des personnes qui sont derrière vous, à vous soutenir, à vous expliquer, qu'on voit leur présence, quoi. Et je crois que c'était vraiment quelque chose de bénéfique pour...
Donc les lacunes que vous aviez, qui les a détectées et comment vous avez fait appel à ce dispositif pour justement essayer de les résoudre ?
Alors quand j'ai postulé pour ce cursus à Lille 3, la directrice de l'UFR a tout de suite détecté que comme je venais d'un bac technologie, elle a pu voir qu'au lycée, il y a certaines matières que je n'ai pas pu avoir qui me mettront en difficulté justement pour mes années à la fac. Donc grâce à cela, elle a mis en place des tutorats pour que je puisse tout simplement rattraper ce retard.
Donc le résultat est très positif puisque vous êtes en master maintenant.
Oui, première année de master et j'ai validé ma licence sans perdre une année. Et c'est vraiment quelque chose, je le recommande à tous les nouveaux étudiants qui rentrent en licence 1.
Donc ces heures, ces cours de soutien, qui les a assurés ?
Alors généralement, c'était des étudiants en master. Et c'était des cours une à deux fois par semaine. Et en petits groupes, on était en petits groupes de travail. Et...
Dans quelle matière ?
Moi, surtout en économie et en mathématiques. C'est là où j'ai eu beaucoup de difficultés, surtout en première année. C'est vrai qu'à partir de la deuxième année, tu commences vraiment à prendre le rythme. À ma troisième année, je n'ai pas eu besoin de ce dispositif pour réussir ma licence.
Donc en plus des cours, on a aussi le soutien en termes d'organisation ?
Exactement. Oui, exactement. En plus, on a un tuteur aussi qui nous suit. C'est-à-dire là, par contre, c'est un professeur qui nous suit une fois, voire deux fois par mois, qui va nous poser des questions sur nos difficultés, si vraiment, si on a des problèmes quelque part. Enfin, c'est vraiment un professeur qui va nous suivre, nous orienter, nous conseiller pour les examens ou pour notre orientation. Donc je trouvais que ça aussi, c'était vraiment quelque chose de bien.
À partir de votre expérience, est-ce que ça vous donnerait l'idée d'être tuteur vous-même ?
Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai été tutrice en troisième année, mais qu'un semestre en économie. Donc grâce aux cours que j'ai pu avoir à mes deux premières années, j'ai pu aussi, moi aussi, être tutrice en troisième année et donner des cours d'économie aux jeunes étudiants en première année, tout simplement.
Ça vous donne une vocation pour la pédagogie ?
Oui et non aussi, car c'est pas trop, cela fait pas partie de mon projet professionnel. Mais c'est vraiment un très bon dispositif, quoi.
Après Janiba, qui a donc bénéficié d'un tutorat pédagogique, voici le témoignage d'une étudiante qui a obtenu un financement, lui évitant d'accumuler les petits boulots souvent peu payés et démotivants, tout en lui permettant d'accomplir une mission utile à la communauté éducative universitaire.
Donc, je m'appelle Pascaline Delay, je suis doctorante en première année de psychologie sociale actuellement et j'ai pu bénéficier d'un contrat étudiant pendant ma deuxième année de Master 2 de psychologie à l'Université de Lille 3. Donc en fait, j'ai été recrutée pour mettre en place des actions en vue de sensibiliser les étudiants, mais aussi les professionnels de l'université à l'égalité homme-femme.
Donc ça, c'est une mission ou c'est un emploi ?
C'était un emploi vraiment, mais donc au cours desquels j'étais vraiment rémunérée pour tout ce qui était travail de réflexion, de mise en place des actions justement qu'on prévoyait de faire avec mon collègue qui a aussi été recruté sur ce contrat. On était deux sur ce contrat pour mettre en place et animer des actions visant à sensibiliser sur les questions d'égalité homme-femme justement.
Comment se passe la relation entre les personnes, les personnels de l'université, les enseignants, et puis vous qui intervenez sur des missions ponctuelles ?
En fait, on n'était pas vraiment en relation directe avec les enseignants. Enfin, il y avait Madame Debauchère, donc qui est chargée de mission à l'égalité homme-femme à l'université de Lille 3, qui nous cadrait un peu sur les choses qu'on prévoyait de faire. Mais je veux dire, sur les actions ponctuelles, il y avait certains enseignants qui venaient participer, mais le statut enseignant-étudiant, dans les moments d'action ponctuelle, il n'était pas regardé, entre guillemets. Je veux dire, tout le monde venait en tant que participant à l'action. Donc il n'y avait pas une division entre étudiants et enseignants de l'autre côté.
Combien d'étudiants vous avez suivis et quel a été votre impact ? On peut déjà l'évaluer ?
Donc le suivi, justement, ce n'était pas régulier. On a fait des actions ponctuelles. Donc celle qui a vraiment super bien marché, vu que c'était quand même nouveau, et ça s'est mis en place entre janvier et juin. Donc il y a eu quand même pas autant de choses qu'on aurait aimé faire en si peu de temps. Mais je veux dire, l'action qui a vraiment bien marché, on a eu une centaine d'étudiants qui ont participé justement à un arbre du genre qu'on avait mis en place dans le hall d'un des bâtiments du campus, sur lequel, en fait, l'arbre du genre, chacun venait mettre un petit mot, un post-it, pour évoquer les avantages d'être un homme ou une femme. Et donc, ça permettait de discuter justement des représentations et des idées reçues que chacun pouvait avoir sur l'un ou l'autre sexe, en fait.
Est-ce que dans le cadre de vos études ou de vos recherches, ça vous apporte quelque chose ? Est-ce que ces rencontres vous ont nourri également ?
Oui, tout à fait, parce que justement, en étant en Master 2 de psychologie, j'ai pu utiliser justement une action que j'ai mise en place, j'ai pu la valoriser pendant un examen. Toutes les compétences que j'ai eues, vu que je travaille beaucoup en psychologie, mais spécialisée dans les interventions éducatives et sociales. Donc en fait, en promotion justement de la santé ou des luttes contre les discriminations, c'est le type d'action qui peut être très bien valorisée et que j'ai pu justement communiquer et partager à l'ensemble de mes collègues pendant un cours de psychologie justement.
Après ces témoignages, voici quelques informations sur le troisième type de dispositif qui concerne la mobilité. La bourse Blériot favorise en effet les déplacements des étudiants qui souhaitent réaliser un séjour d'études ou un stage à l'étranger dans le cadre de leur formation. Mais avant toute démarche, les étudiants doivent, pour présenter leur projet de mobilité, s'adresser au service Relations internationales de leur établissement qui leur conseillera, parmi toutes les aides existantes, le profil le mieux adapté à leur projet. C'était un sujet de René Lavergne de Radio Campus.